Bonjour à chacune, à chacun. Ce matin, comme vous l'avez vu, peut-être dans le memento, comme vous le voyez à l'écran là, on va parler d'un texte particulier, d'un texte un peu mystérieux, où Jacob, parce qu'on continue un peu son histoire, Jacob sera aux prises avec Dieu. Jacob va même entamer un combat avec Dieu. Alors avant qu'on y arrive à ce combat, j'aimerais juste un peu vous remettre dans le bain, dans l'histoire de Jacob. Je vais un peu vous raconter cette histoire, tâcher de la raconter en espèce de résumé, mais un résumé qui, j'espère, sera compréhensible pour tous, même si vous ne connaissez pas cette histoire. Jacob, c'est une des personnes majeures de l'Ancien Testament. Et puis, ce qui est toujours bien avec ces figures majeures de l'Ancien Testament, c'est que je crois qu'ils nous rejoignent dans nos vies, dans nos réalités les plus profondes, de nos vies de foi. Et puis, on va voir un aspect de cette vie de foi qui, moi, m'a beaucoup rejoint et que Jacob, par son histoire, m'a mis sur la piste de cet élément-là. La vie de Jacob, si je devais la résumer, c'est ça. C'est une quête, voire même une quête effrénée, de la bénédiction de Dieu. Il fait tout pour obtenir cette bénédiction de Dieu. C'est lui qui fait tout. Alors, on a l'exemple parfait. Il commence par usurper, c'est-à-dire qu'il vole un peu la bénédiction de Dieu à son frère. C'est peut-être un élément que vous connaissez bien, où il se transforme en son frère, il se met plein de poils sur les bras, et puis comme ça, il obtient la bénédiction de Dieu, de l'aîné, à la place d'Ésaü. Ésaü, c'est son frère. Puis on verra que cet Ésaü, il va rester dans sa tête de manière très, très intense. Il ne va pas pouvoir s'en échapper de cet Ésaü, de ce frère, parce qu'il a toujours en tête cette bénédiction qu'il lui a volé d'une certaine façon. Suite à cette bénédiction volée, qu'est-ce qui arrive? Il doit prendre la fuite parce qu'il a peur de son frère et de sa réaction. On peut le comprendre, hein? Il vient de se faire piquer la bénédiction d'Aînesse. Donc, il a certainement des idées pas forcément très positives à l'égard de Jacob, son frère. Et Jacob, lui, il sent cette peur l'envahir et il fuit très, très loin. Et puis, la dernière fois que je vous ai parlé ici, on était tombé sur ce moment où Jacob, épuisé, s'endort dans le désert. Et puis, il fait un rêve extraordinaire où il se rend compte que Dieu le rejoint à travers une échelle. Puis sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent pour signifier que Dieu est toujours à ses côtés. Indépendamment des circonstances, on a vu que cette échelle signifie la présence de Dieu à ses côtés pour lui et par extension pour nous, indépendamment des circonstances. Mais il finit ce rêve avec cette parole un peu particulière, où on se rend compte qu'il a compris quelque chose de Dieu, mais pas encore complètement tout, puisqu'il dit « Si Dieu est avec moi, et s'il me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, le Seigneur sera mon Dieu. » C'est comme s'il pose des conditions, finalement, à la bénédiction. Il a reçu cette onction particulière, cette présence de Dieu particulière dans ce rêve, mais sa conclusion, c'est une succession de « si ». Alors, on peut être étonné, c'est souvent la nôtre de conclusion, et je crois qu'on s'y retrouve si on regarde les choses en face. Donc, on l'a laissé là, Jacob. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il continue sa fuite, et il va s'établir chez son beau-père, Laban. Et dans ce beau pays, chez son beau-père, il vit en exilé, certes, mais il vit finalement une vie assez prospère. Il se marie deux fois avec deux femmes différentes. Il se fait rouler dans la farine à son tour. Il accueille quand même 12 enfants. C'est pas rien. Bon, avec 3, je trouve que c'est déjà pas mal. Il finit par s'enrichir et il a une situation stable et enviable. Il est prospère. Et ainsi, il peut dire que ses conditions, finalement, elles ont été reconnues, puisqu'il peut s'exprimer « Dieu m'a parlé, Dieu est véritablement avec moi ». La condition qu'il a exprimée à la fin de son rêve à Bethel, ça semble bien rempli. Dieu l'accompagne et le bénit. Mais et c'est rarement comme ça un rêve tout rose, tout bien, ou bien une paire de pâtes à roulettes à la descente, la vie. Il y a des mais. Quand on est trop prospère, qu'on est trop bien finalement, qu'est-ce qui arrive souvent? Ça engendre de la Jalousie, exactement. Et ça n'a pas manqué dans l'histoire de Jacob. Qu'est-ce qui est devenu jaloux? Ses propres cousins. Généralement, ce n'est pas très très loin qu'on va chercher ces éléments de conflit. Hein. Ses propres cousins deviennent jaloux de sa réussite. Ce qui pousse une nouvelle fois Jacob à fuir. Alors, je vous passe toutes les péripéties des adieux avec Laban, son beau-père, ses cousins. Ça se passe plus ou moins bien. Ils ne se tapent pas dessus, mais quand même, ils arrivent à la conclusion qu'il faut se séparer. Et puis, il part pas sur un coup de tête, mais aussi sur une parole de Dieu. C'est le Seigneur Dieu qui dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères, au lieu de tes origines. » Et il lui fait à nouveau cette promesse, comme à Bethel, « Je serai avec toi. » Mais, et vous pensez bien qu'il y a un deuxième mais, il y en a un qui n'a pas disparu encore là. Il y en a un qui est toujours là, et puis, comble de malchance, il se trouve même sur sa route. Celui qui est sur sa route, c'est celui qu'il a plus vu depuis un peu plus de 20 ans. Mais dans sa tête, je pense qu'il doit y penser tous les jours. Ça fait 20 ans qu'il ne l'a plus vu, mais tous les jours, il vient hanter ses pensées. C'est Ésaü. Il doit passer par son territoire. Il n'a pas le choix. C'est sur sa route. Il doit affronter sa peur. Je l'ai mis avec S-A majuscule. Ben, c'est la peur de sa vie, finalement. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que Jacob, il exprime cette peur en disant « Il eut très peur, l'angoisse le saisit. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il partagea en deux les troupes et les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail. Il continue ses stratégies, finalement. Et puis, tout le chapitre qui précède ce texte qu'on va méditer ce matin, il fait comme un catalogue des effets de cette peur sur Jacob. Le premier effet de la peur sur Jacob, c'est que, d'un côté, il remet en cause la parole de Dieu. Est-ce que j'ai vraiment entendu la parole de Dieu qui m'a dit « Retourne dans le pays de tes pères, le pays de tes origines » Est-ce que je l'ai vraiment entendu? Il commence à douter, il se dit « Ouais, mais finalement, peut-être que je me suis fait une petite idée, peut-être que c'était quand même une pensée personnelle. » Et puis, il arrive même à remettre en cause les promesses que Dieu lui a fait. Il arrive à remettre en cause le fait qu'il lui ait dit « Je serai avec toi. » Il n'en est plus du tout sûr, là. Il sait qu'il doit affronter la peur de sa vie. Il n'est plus du tout sûr de où il en est. Deuxième chose, un deuxième effet de la peur, il se dévalorise. Il est là, écoute Seigneur, là, ce qui est sûr, il y a une chose qui est sûre, là il a quand même quelques certitudes, c'est que je ne vais jamais y arriver. Je ne suis absolument pas capable d'affronter ce que tu as mis sur mon chemin. Ça ne va pas, même pas nécessaire d'y penser, j'y arrive pas. Et puis il le dit aussi à Dieu. C'est exclu. C'est non. Plus subtil encore, il implore la délivrance de la part de Dieu. Ah, ça c'est un mot qu'on aime bien. Dieu qui vient et il nous délivre. Seigneur Dieu, toi tu es tout puissant, tu peux me délivrer. Mais il y a un petit hic, parce que si on gratte de nouveau un tout petit peu ce qu'il y a sous ce terme de délivrance, en fait ce qu'il a derrière la tête, c'est que Dieu le débarrasse d'Ésaü, le mette sur le côté, puis que lui... il puisse tracer sa route calmement et dans la paix. Ce serait extraordinaire, c'est ça la délivrance, hein, finalement. Que Dieu pousse un peu les obstacles devant nous, et puis que nous, on puisse tracer notre route. En tout cas, c'est la conception de Jacob. Puis de nouveau, si on a un poil honnête, c'est souvent la nôtre. La délivrance, pour lui, dans ce cas-là, c'est que Dieu fasse le chasse-neige. On est dans la période, hein. Je viens de ça, sérieux. La délivrance du chasse-neige. Tenez bien ça. Et sa réponse qu'il commence à formuler, il continue d'élaborer ses stratagèmes. Il n'en est pas à son coup d'essai. Hein. Il continue d'élaborer ses stratagèmes. Des stratégies humaines, je mets une partie là, je mets une partie là, j'envoie des cadeaux. Ensuite, moi, je me retire. Puis si les cadeaux premiers ne marchent pas, j'envoie les deuxièmes cadeaux. Et puis ainsi de suite, il élabore tout ça dans sa tête. Et on se demande vraiment s'il n'est pas un peu le parano. Parce qu'on n'en sait rien, en fait, ce qu'il pense, Ésaü. Dans tout le texte, il ne nous a absolument donné aucune information sur ce que pense Ésaü. Par contre, alors, ce que Jacob pense d'Ésaü, alors ça c'est très très clair, c'est que c'est un immense monstre, et puis qu'au fur et à mesure, plus il y pense, plus il devient gros. Immense. Et il a surtout peur, au plus profond, je crois, de l'infidélité de Dieu. Est-ce que Dieu sera vraiment à mes côtés lorsque je me retrouverai en face de lui? Est-ce qu'il sera vraiment au cœur de cette rencontre ou pas? Il est dans l'inconnu. Il est dans l'inconnu. Est-ce que Dieu sera là? On l'a vu, à Jacob est un homme qui préfère s'assurer la bénédiction de Dieu par sa propre roublardise, par sa propre activité, plutôt que de recevoir quelque chose, la bénédiction de la main de Dieu. Une ruse vaut mieux que deux promesses de Dieu. C'est un peu son leitmotiv. Hein? Même peur, mêmes effets chez nous. Moi, je me retrouve en plein dans tous les effets, ce catalogue des effets. Je peux dire, ouais, alors Jacob, là, je suis pile dedans. Hein. Je suis pile dedans parce que c'est des choses, d'après moi, qui sont pile dedans pour l'être humain. C'est ces peurs qu'on connaît tous et qui nous empêchent, face à un obstacle, à appréhender les choses de manière confiante. On y est, hein, suivant les étapes de notre vie, on y est. Alors voilà notre texte. Cette nuit même, il se leva. Il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, je ne sais pas où elle a passé le 12e. Il passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et tout à coup, Jacob se retrouve seul. Puis là, il y a déjà un élément assez intéressant. Je commente un peu au fur et à mesure. Souvent, pour affronter nos peurs, il n'y a pas 46 000 personnes autour de nous. Hein. Souvent, on doit affronter notre peur tout seul comme des grands. Il y a un moment donné, on a beau être entouré par deux femmes, des servantes, du petit bétail, du gros bétail, 11 enfants. Au bout d'un moment, on est seul. Et c'est ce qui se passe avec Jacob cette nuit-là. Genèse chapitre 32, tout à fait, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, donc sur Jacob. Donc il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, cet homme, « Laisse-moi car l'aurore s'est levée. Je ne te laisserai pas, répondit-il, avant que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. » Et là, on a une définition de qu'est-ce que signifie Israël. « Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Et Jacob lui demanda, « Mais de grâce, indique-moi ton nom. » « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu ton nom ?» Et là même, il ne répondit pas, ça j'ajoute, mais il le bénit. Jacob appela ce Dieu Peniel, c'est-à-dire la face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Au cœur de ces angoisses, de ces questionnements, voilà que quelqu'un, un homme, vient à sa rencontre. Et il s'avère qu'au fur et à mesure de la lutte, il reconnaît que cet homme, c'est Dieu. Il y a un mystère là, je vais pas essayer de vous l'expliquer ce matin parce que j'y perdrai mon latin, que je ne sais pas d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Cet homme qui vient à la rencontre de Jacob, au fur et à mesure de la lutte, au fur et à mesure qu'il se roule dans la poussière les uns les autres, il s'avère que c'est Dieu. Impressionnant, hein? Impressionnant que Dieu le rejoigne de cette manière-là. On remarque aussi que le combat est féroce. C'est un combat qui dure toute une nuit. Et puis à la fin, c'est même plus Jacob qui dit « time out, j'en ai marre », c'est Dieu qui dit « laisse-moi partir ». Il n'arrive pas à en faire façon finalement, à aller au-delà de quelque chose. Et finalement, dernière chose qu'on peut constater dans ce texte, c'est que cet homme Dieu, ou ce Dieu, ne donne pas son nom à Jacob. Lui, il lui donne un nom. Lui, il lui donne la bénédiction. Mais lorsque Jacob veut des informations sur lui, il se tait. Il n'y a rien du tout. Silence. Je crois que quand on affronte ses peurs et quand on affronte Dieu, puisque c'est ça dont il est question ce matin, on affronte surtout notre propre volonté. On affronte surtout notre volonté de nous en sortir absolument par nous-mêmes, en comptant uniquement sur nos propres forces. Et puis, je pense que tant que tout va bien, que tout n'est pas trop exigeant, que la température n'augmente pas trop, on ne se rend pas compte qu'on compte finalement sur nos forces. Mais quand la température augmente, que la situation devient tendue, c'est là qu'on se rend compte vraiment, est-ce qu'on peut s'ouvrir à Dieu et à lui faire confiance, ou est-ce qu'on se recroqueville sur nous-mêmes parce qu'on pense quand même qu'on a la meilleure solution. Dans ces situations limites, et ça Jacob, il est en train de vivre une situation limite, on voit et on peut sentir quel est l'attachement et la confiance qu'il fait véritablement à Dieu. Est-ce que c'est la peur qui prend le dessus, ou est-ce que c'est la confiance qui prend le dessus? On voit que le combat est rude, il n'y a absolument rien de chiqué ou de non authentique. Le combat, il est extrêmement rude. Je crois que dans nos vies, si on est honnête, le combat dans ces situations-là, il est extrêmement rude. Notre tendance naturelle, logique et fréquente, c'est de se recroqueviller sur nous puis de commencer, exactement comme Jacob, à faire le même catalogue des peurs. À se dire, ma propre volonté, finalement, ça va me sortir mieux que si je me lance d'une certaine façon un peu dans le vide et je compte sur Dieu. On est tout le temps à la recherche de cette sécurité, puis cette sécurité, elle se traduit souvent par nos stratagèmes, nos stratégies, nos manières de faire. Et puis on peut se demander quand même, où est Dieu des fois là-dedans? Qu'est-ce qu'il en est de Dieu? On touche quelque chose de très profond avec cette histoire de Jacob et ce combat qu'il fait avec Dieu. Je crois que ce combat, il nous rejoint toutes et tous dans nos vies de foi. On est tout le temps avec ces deux, enfin tout le temps, non, on est de temps en temps, pas tout le temps, justement, mais on est de temps en temps confronté à ces deux images, ce marteau qui vient sur notre tête, et puis notre propre volonté, c'est-à-dire de se dire, je suis assez fort, j'y vais, je compte sur mes forces pour y aller. On le sent très bien si on compte sur nos forces ou bien si on se laisse entre les mains de Dieu. C'est intime, mais on le sent très bien quand on y est dans la volonté de Dieu ou pas. On le sent au plus profond de nous. Et puis, c'est ce que Jacob a pu expérimenter à travers ce combat qu'il fait avec Dieu. Ce combat épique. Et il ne ressort pas indemne de cette lutte. Il ressort béni, il a reçu cette bénédiction, mais il ressort aussi meurtri. Il y a comme quelque chose de lui qui s'en est allé, il y a quelque chose de lui qu'il a dû abandonner. Puis moi, ça me fait penser assez fortement à ce texte de l'Évangile où Jésus appelle la foule, c'est dans Marc chapitre 8. Avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » On est exactement dans le même combat que Jacob a avec Dieu dans cet épisode de la Genèse. Il y a un élément dans ce que dit Jésus, de ses paroles extrêmement radicales, de renoncement, de meurtrissure même à soi-même, pour pouvoir bénéficier pleinement de la bénédiction de Dieu, pour pouvoir comprendre vraiment pleinement ce qu'elle signifie cette bénédiction pour nos vies, pour recevoir comme Jacob ce nouveau nom d'enfant de Dieu. Il y a ce combat qui nous est demandé et qui parfois vient tout simplement à notre rencontre sur nos chemins de vie, qu'on le veuille ou non. C'est aussi, dimanche passé, on en a déjà parlé, mais c'est aussi ce dimanche l'occasion de refaire référence à ces chrétiens qui nous sont très proches de par la foi, puis des fois très éloignés de par les situations qu'ils vivent. Puis eux, ils ne sont plus dans cette question fréquemment. Pour eux, cette question elle a déjà été posée, puis ils sont en train de la vivre au quotidien. Pour nous qui sommes dans d'autres contextes, c'est peut-être un peu moins évident. C'est peut-être pour ça que des fois, on a l'impression qu'eux, ils sont là, puis nous, on est là. C'est peut-être pour ça que des fois, on est fasciné par ce qu'ils vivent et puis par ce qu'ils font. Parce qu'il y a une expérimentation profonde chez eux de ce total laissé aller dans les mains de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix dans leur quotidien, ils ne reçoivent pas 1000 autres apports de la présence de Dieu, de cette présence peut-être plus paisible que nous recherchons. On est dans ce combat, on est dans ce combat-là, et puis ce combat qui est essentiel pour nos vies de foi. Vivre pleinement la bénédiction, c'est égal à un combat, c'est égal à une haute lutte. Ce n'est pas quelque chose que je peux décréter comme ça, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, en corps à corps finalement, avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui m'est naturel, c'est quelque chose qui va presque au-delà de mes forces. Et c'est intéressant dans ce texte que c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre de Jacob pour combattre avec lui. C'est Dieu qui descend sur terre, c'est Dieu qui se roule dans la poussière avec Jacob pour combattre avec lui et le faire aller une étape plus loin. Et ça me fait penser à nos vies chrétiennes, puis pour moi il y a véritablement ces deux phases de vie qui peuvent se côtoyer. La dernière fois je vous ai parlé en évoquant Bethel et de cette rencontre extraordinaire à travers un rêve de Dieu, de cette présence extraordinaire de Dieu à ses côtés, qui fait passer Jacob dans sa fuite d'un lieu inconnu à quelque chose de connu, où il se rend compte vraiment de la présence rassurante de Dieu à ses côtés. Il est là, ce lieu inconnu que j'ai représenté par un séjour de vacances, devient un lieu connu, c'est le bord du Léman, où on est bien, où on est paisible. Cette première phase, qui j'espère nous arrive fréquemment, on sent concrètement la bénédiction de Dieu, on sent bien. On sent qu'il y a comme un peu des effets immédiats de cette présence. Et d'ailleurs, pour Jacob, ces effets immédiats vont même se devenir très concrets, puisqu'il devient riche, prospère, en paix, chez son beau-père Laban. Il bénéficie vraiment de cette bénédiction de Dieu de manière très concrète dans sa vie. Il y a aussi une deuxième phase dans nos vies chrétiennes, et c'est celle qu'on voit ce matin. C'est ces moments, que j'espère moins fréquents, où on est appelé à affronter ses peurs et même à affronter Dieu pour savoir qu'est-ce qui est vraiment aux commandes de notre vie. C'est le temps des luttes. Est-ce que Dieu tient vraiment sa promesse? Est-ce que ce Dieu en qui je confie ma foi, ma vie, est-ce que c'est vraiment le Dieu de la bénédiction? Là, je vois plus grand-chose. J'ai peur. Je suis dans l'angoisse. Et pour Jacob, on l'a vu ce matin, ce questionnement intense et existentiel intervient lorsque la peur de revoir son frère prend le dessus. Du coup, son indépendance reprend immédiatement le dessus. La main de Dieu, sa présence, sa bénédiction, nada, il ne voit plus rien du tout. Il ne voit plus rien du tout. Alors qu'il a été béni, alors qu'il a été trouvé par Dieu, alors qu'il a fait des rêves, alors que sa présence était de manière très très explicite dans son cœur, dans sa vie. Tout à coup, le néant. Il ne voit plus rien du tout. Il faut que Dieu lui-même vienne à sa rencontre et se roule dans la poussière avec lui pour qu'il comprenne de nouveau qu'il est là. C'est fort comme image, ce Dieu tout-puissant qui roule dans la poussière avec sa créature, avec son enfant. Ce n'est pas ce Dieu qui reste je ne sais pas où, mais ce Dieu qui vient se rouler dans la poussière avec son enfant. Dans ces deux phases de vie, il n'y a absolument rien de moral. Je ne peux pas se dire, alors maintenant je vais mettre tout en œuvre pour me dire que la phase 1, c'est pas bien, la phase 2, c'est mieux, parce que comme ça, j'aurai une meilleure foi. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas une phase bien, l'autre phase pas bien. Et d'ailleurs, Dieu ne porte absolument jamais de jugement sur le cheminement intérieur de Jacob. Dans toute l'histoire, il n'est pas en train de se dire, là, tu es en train de faire fausse route. Dans toute cette histoire, il vient le rejoindre indépendamment de ces phases de vie. La caractéristique de Jacob, c'est qu'il lutte et puis qu'il le lutte pleinement. Moi, je vois une forte authenticité chez Jacob où il va jusqu'au bout de qui il est et il se laisse quand même rejoindre par Dieu. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une espèce de quête morale. Il a une quête de bénédiction, c'est jusqu'au boutiste. Et finalement, au terme d'une nuit de lutte, c'est comme s'il doit rendre les armes et puis se laisser rejoindre par Dieu. Donc, Dieu n'attend pas qu'on soit des chrétiens ou des croyants qui marchent sagement sur le chemin puis qui ne font pas d'écart. Je ne crois pas du tout que c'est ça que Dieu nous dit à travers l'histoire de Jacob. Il nous dit plutôt allez jusqu'au bout dans l'authenticité, la sincérité avec moi. Et là, jusqu'au bout, je serai là encore pour vous. Jusqu'au bout, vous allez me rejoindre, je vais vous rejoindre et on va pouvoir se rencontrer. Il y a peut-être des phases où ce sera à travers des peurs, des angoisses. Il y a peut-être d'autres phases où ce sera beaucoup plus paisible, comme à Bethel, beaucoup plus extraordinaire. Et pour moi, c'est la prière ce matin que je formule pour chacune et chacun d'entre nous. Et puis c'est pour ça que j'ai mis aussi ces images de la croix, les croix vides, hein, qui signifient la résurrection, où Dieu signifie vraiment qu'il vient à notre rencontre et qu'il se roule dans la poussière avec nous. Qu'est-ce qu'il fait d'autre à la croix, Jésus, que de se rouler dans la poussière avec nous, de venir à notre rencontre et de nous dire « lâche prise, viens avec moi, fais-moi confiance, viens à ma suite ». Au cœur de nos luttes, au cœur de nos angoisses les plus profondes, peut-être même nos angoisses existentielles, de se demander qu'est-ce qu'on va faire du lendemain, quel sera notre avenir, quelles seront nos perspectives, on peut trouver Dieu au cœur de ces moments-là. On peut trouver Dieu au cœur de nos luttes, on peut trouver Dieu au cœur de nos angoisses. Même si, concrètement, on se dit que c'est une bénédiction qui paraît très lointaine, qui paraît peu palpable. Dieu, il est là, au cœur de nos vies, épreuve comprise. C'est, je crois, le message que nous dit ce combat. Au cœur de notre épreuve, Dieu peut être là. Alors que nous puissions trouver tout à nouveau sur nos chemins de vie, peut-être que vous êtes dans cette phase-là, peut-être que vous êtes dans une autre phase de vie, mais qu'on puisse rester ouvert à cette présence de Dieu, indépendamment finalement de nos circonstances, qu'on les considère comme négatives parce qu'on n'aime pas avoir peur, positives parce qu'on aime bien ces sentiments de paix, de plénitude, qu'on puisse garder ses yeux ouverts sur Dieu et sa bénédiction, parce que Dieu, il nous le dit dans sa parole, se trouve au cœur de nos luttes, de nos angoisses, finalement au cœur de nos vies. Amen.